Radio Prague, les informations.
Le deuxième tour des élections sénatoriales partielles se tient en République tchèque. Le premier ministre Mirek Topolánek critique le président de la République Václav Klaus. Ouverture du Festival international du film documentaire à Jihlava. Ce vendredi à 14h a commencé le deuxième tour des élections sénatoriales partielles, à l'issue duquel 26 nouveaux sénateurs seront choisis. Les bureaux de vote se fermeront dans 24 heures. Le principal duel se dispute entre le Parti civique-démocrate et le Parti social-démocrate. On rappellera qu'aux élections régionales qui ont eu lieu il y a une semaine, la victoire a été remportée par les sociaux-démocrates. Mirek Topolánek, premier ministre et chef du Parti civique-démocrate, a critiqué sur le sol de la Chambre des députés le président Václav Klaus pour son ingérence dans la vie interne du parti. « Je pense que ses interventions dépassent son rôle actif à jouer dans la politique », a-t-il fait remarquer. Selon certaines sources, Václav Klaus aurait eu un tête-à-tête avec le maire de Prague, Pavel Bém, principal rival de Topolánek au sein de l'ODS et deux présidents des conseils régionaux sortants. Mirek Topolánek refuse l'éventualité de renforcement du rôle de la zone euro. Le vice-premier ministre tchèque, Alexandr Vondra, a dénoncé jeudi, dans un communiqué virulent, toute volonté de restreindre le rôle de Prague pendant la prochaine présidence tournante de l'Union européenne au premier semestre 2009. De 10 à 14 milliards de couronnes, telle est la somme que l'État veut débloquer au cours des 10 ou 15 prochaines années aux fins de l'amélioration de la situation du logement des Roms, conformément au concept de solution des problèmes de l'ethnie rom en Tchéquie. Jiří Čunek, ministre de l'Aménagement du Territoire, l'a déclaré lors d'une conférence consacrée aux localités roms exclues qui s'est tenue à Prague. Ouverture ce vendredi soir du Festival international du film documentaire de Jihlava, qui en est à sa 11e édition. Le festival se présente comme le plus grand événement en son genre en Europe centrale, qui se distingue non seulement par une programmation intéressante, mais aussi par une atmosphère détendue et toute une gamme de manifestations d'accompagnement. La mémoire du 28 octobre, c'est ainsi que s'intitule une exposition consacrée au 90e anniversaire de la naissance de la République tchécoslovaque qui a été ouverte ce vendredi à l'écurie impériale au château de Prague. Elle montre comment les dates importantes se sont répercutées dans les remaniements du château. Météo, ce samedi, le jour de fête des Béatas, le ciel demeurera couvert et les températures diurnes se situeront autour de 12 degrés. Une baisse des températures est annoncée pour les jours qui viennent. C'était le journal présenté par Alena Gabertova.
Faits et événements en République tchèque. Jarka Gisubelova.
Bonjour, je suis ravie de pouvoir vous tenir compagnie pour ces derniers faits et événements avant le week-end, dans lequel il sera question tout d'abord de la situation sur la scène politique tchèque après les élections régionales. Ensuite, nous serons en ligne avec notre collègue Václav Richter qui s'est rendu à la conférence sur Franz Kafka tenue à Liblitz, non loin de Prague. Franz Kafka, une fois encore, l'écrivain Arnoš Lustig, le lauréat du prix Franz Kafka décerné pour la littérature, son bref portrait dans un instant dans ces faits événements. Et nous nous rendrons aussi au salon Étudier en France qui a eu lieu pour la 7e année consécutive ce jeudi à Prague. Au nom de toute l'équipe qui a préparé cette émission, je vous souhaite une très bonne écoute. Après la défaite du camp gouvernemental aux élections régionales et ses pâles résultats au premier tour des sénatoriales, on ne peut pas dire que la scène politique soit particulièrement calme en Tchéquie. Que se passe-t-il donc au sein de la coalition gouvernementale, mais aussi de l'opposition? Alain Slivinski tente de répondre pour vous à cette question.
La coalition gouvernementale a essuyé une cuisante défaite et son leader, le Parti civique démocrate, ODS, est bien conscient du fait que des changements s'imposent. Le plus concerné est certainement le président de l'ODS et premier ministre Mirek Topolánek, pour qui il est difficile de se faire à l'idée de perdre tous les conseils régionaux, sauf Prague où les régionales n'ont pas eu lieu. Pourtant, il peut pavoiser car son cabinet a résisté pour la quatrième fois à la motion de censure présentée par les sociaux-démocrates. Le Premier ministre est tellement préoccupé par la tension qui règne sur la scène politique, mais aussi au sein de son propre parti, l'ODS, qu'il vient d'annuler son voyage officiel aux États-Unis, comme le confirme d'ailleurs l'ambassadeur tchèque à Washington, Peter Kolář.
Le voyage du Premier ministre qui devait commencer le 29 octobre n'aura pas lieu. Une nouvelle date sera fixée par la voie diplomatique. La partie américaine a fait preuve de compréhension pour cette décision et elle attend que nous proposions une nouvelle date.
Il est clair que le chef du gouvernement considère la situation politique comme grave pour en arriver à annuler une rencontre avec le président George Bush, au cours de laquelle les questions de la crise financière, du système antimissile en Tchéquie et de la sécurité des sources énergétiques européennes devaient être évoquées. La tension règne au sein de l'ODS où les changements sont à l'ordre du jour. Peter Bendel, président du conseil régional de la Bohême centrale, battu aux élections, ne pense pas qu'il suffise de renvoyer le ministre de la Santé Tomáš Julínek, dont les réformes seraient la cause de la défaite du parti. Il pourrait bien remplacer Mirek Topolánek à la présidence du parti et vient de refuser un poste au gouvernement. Il précise.
L'ODS doit effectuer une profonde analyse interne et il ne s'agit pas seulement de changer quelques postes au gouvernement. Cela ne serait vraiment pas assez.
En dépit de leur victoire au régional, les sociaux-démocrates vivent un peu dans la zizanie. En effet, leur président Jiří Paroubek a déclaré ce jeudi qu'il n'était pas question de mener des négociations avec l'ODS lors de la composition des conseils régionaux, alors qu'il ne serait pas tout à fait contre une coopération, même avec les communistes. Cependant, les leaders régionaux du parti ne refusent pas vraiment une coalition avec l'ODS et mènent des négociations avec tous les partenaires potentiels. L'agitation sur la scène politique tchèque pourrait bien encore monter la semaine prochaine après le second tour des sénatoriales de ce week-end.
L'Institut pour la critique des textes de Heidelberg et l'Institut d'histoire contemporaine de l'Académie des sciences tchèques de Prague organisent ces jours-ci une conférence sur l'œuvre de Franz Kafka, considéré aujourd'hui comme un écrivain ayant joué un rôle décisif dans l'évolution de la littérature du XXe siècle. Y prend part également notre collègue Václav Richter.
C'est dans le château de Lieblitz, un monument baroque splendide situé non loin de Prague, que se tient du 24 au 25 octobre une conférence consacrée à Franz Kafka. De nombreux historiens, philosophes, historiens de littérature, traducteurs et journalistes se sont donné rendez-vous dans cette vieille demeure nouvellement restaurée pour évoquer les grandes dates ayant joué un rôle important dans notre perception et notre réception de l'œuvre de Franz Kafka. Il s'agit des années 1963 et 1968. La conférence consacrée à Franz Kafka en 1963 dans ce même château de Lieblitz a réhabilité Kafka et son œuvre est devenue une impulsion pour le dégel politique et culturel qui allait aboutir au grand mouvement de libération de l'année 1968. Aujourd'hui, les participants à la conférence s'interrogent donc dans quelle mesure l'œuvre de Kafka a contribué à ce mouvement qui a eu assez de force pour s'opposer au régime totalitaire. Dans quelle mesure les textes mêmes de Kafka s'attaquent à l'arbitraire et à la répression. Le deuxième grand thème de cette conférence est la question de savoir pourquoi la problématique du pouvoir a été et est toujours liée justement avec l'œuvre de Franz Kafka, en quoi réside le caractère subversif de cette œuvre. Et finalement, le troisième ensemble de problèmes est consacré à l'analyse des conséquences historiques, politiques et culturelles de la conférence de 1963. Au seuil du XXIe siècle, Kafka reste donc avec nous. Son œuvre se retrouve cependant dans un nouveau contexte. Le système totalitaire, dont les mécanismes kafkaïens avaient été si génialement dévoilés par cet écrivain, se sont effondrés. Il est donc naturel que nous nous interrogeons dans quelle mesure l'œuvre de Franz Kafka reste actuelle et ce qu'elle dit aux lecteurs de notre époque.
L'écrivain tchèque Arnoš Tlustík s'est vu attribuer ce jeudi le prix littéraire international Franz Kafka, qui est décerné depuis 2001 par la Franz Kafka Society et le maire de Prague, un auteur qui, par ses créations, contribue aux valeurs de la démocratie, de l'humanisme et de la tolérance et dont l'œuvre parle au lecteur sans égard à la nationalité et la culture, tout comme l'œuvre de Franz Kafka. Après le français Yves Bonnefoy l'année dernière, Arnoš Tlustík est le deuxième tchèque avec Ivan Klima à se voir attribuer ce prix accompagné d'un chèque de 10 000 dollars et d'une miniature de la statue Kafka érigée à Prague. Survivant de l'Holocauste et mémoire vive du XXe siècle, Arnoš Tlustík, âgé aujourd'hui de 81 ans, est l'auteur de scénarios et romans comme Dita Sachs et Prière pour Katerina Horowitz portés à l'écran. Il se dit reconnaissant pour ce prix.
C'est un prix très sympathique, d'abord pour le prix lui-même, ensuite parce que c'est l'un des prix les plus prestigieux décernés dans ce pays. C'est en fait l'unique prix international décerné en Bohême. Ses lauréats dans le passé étaient Philippe Roth, Elfried Jelinek et Harold Pinter. Et donc, bien évidemment, je suis très heureux d'être dans la lignée de ces auteurs vraiment éminents.
Chaque succès est dangereux, ajoute en même temps Arnoš Tlustík, qui estime qu'un roman est bon s'il est lu pendant 50 ans. Pour lui, Prière pour Katerina Horowitz fait partie de ses livres. Ce jour-ci, Arnoš Tlustík sort une prose, Les Bouleaux Blancs, qui est une nouvelle version des Bouleaux Blancs en automne, sortie en 1966. Avec son fils, le réalisateur Josef Tlustík, il prépare un documentaire sur les lieux d'anciens camps de concentration. À l'âge de 15 ans, Arnoš Tlustík est passé par Térésine, Auschwitz et Buchenwald et a réussi à échapper à un convoi de la mort à Dachau. Cette expérience a marqué toute sa création. En 1948, il est parti en tant que correspondant couvrant la guerre israélo-arabe. Émigré en 1968 aux États-Unis où il a enseigné dans plusieurs universités, Arnoš Tlustík partage depuis 1990 sa vie entre l'Amérique et la République tchèque où il a aussi ses élèves et donne des cours de composition créatrice. Le salon étudier en France propose de présenter aux lycéens étudiants tchèques toutes les possibilités de suivre des études supérieures en France. Ce jeudi, il en était à sa 7e édition, mais tout au cours de l'année également, depuis juin 2007, les jeunes tchèques peuvent s'adresser au bureau de Campus France situé dans l'Institut français de Prague. C'est là que Caroline Dekil, parfaitement bilingue, les oriente et les aide dans leur démarche. On l'écoute au micro d'Anna Kubista.
Tous les ans, il y a environ 1000 étudiants tchèques qui partent en France. Bon, la plupart, c'est des étudiants qui partent dans le cadre du programme Erasmus. Il y en a environ 600. Ensuite, il y a des étudiants qui partent avec des bourses du gouvernement français. Et puis, il y a aussi un certain nombre qui partent, on va dire, à titre individuel. La plupart des étudiants ont quand même beaucoup d'intérêt pour les sciences sociales, les lettres, etc. Mais je dirais qu'il ne faut pas oublier que la France, c'est aussi un pays où il y a beaucoup de formations scientifiques, des écoles d'ingénieurs. Et donc, ça peut être intéressant pour les étudiants tchèques qui ont envie de se former dans ce domaine.
Quand ils partent en France, certains peuvent déjà avoir un très bon niveau de français, certains peut-être pas. Est-ce qu'il y a des possibilités, par exemple, en France, d'avoir des cours aussi en anglais ?
Oui, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de programmes en anglais, il y en a de plus en plus. Il y en a beaucoup dans le domaine de la gestion, dans les écoles de commerce. Il y en a aussi beaucoup dans les écoles d'ingénieurs. Je sais que, par exemple, aujourd'hui, sur le salon, il y a des écoles d'ingénieurs qui vont présenter leurs programmes en anglais. Il y a aussi des programmes en anglais à Sciences Po. Dans les universités, au niveau des masters, ça commence à se faire aussi de plus en plus. Donc le niveau de français n'est pas une condition pour aller étudier en France.
Mais outre les possibilités d'étudier en France même, il existe en République tchèque des formations franco-tchèques spécialisées comme la filière franco-tchèque d'économie appliquée de l'OMOT. Nicolas Schumacher en est le coordinateur.
Cette filière a été créée en 1995, donc grâce à un partenariat entre l'université Palaki, donc de la ville de l'Olomouc, également avec l'ambassade de France à Prague, ainsi que l'université de Lille 3. Donc en fait, on offre aux étudiants tchèques la possibilité d'étudier l'économie, la gestion d'entreprise, etc. mais tout ça en français. Donc ça s'adresse plutôt aux étudiants qui ont suivi un cursus de français avant d'entrer à l'université et qui ont déjà un bon niveau de français. C'est sur 5 ans en fait. On a tout d'abord le master, la licence, puis le master. Cette année, on a environ 200 étudiants.
Et à Prague, l'Institut franco-tchèque de gestion forme les managers qui plus tard travailleront par exemple dans les entreprises françaises implantées en République tchèque. Vladka Karetova est la responsable du Master Management et Administration des entreprises.
L'Institut franco-tchèque de gestion a été fondé en 1990 auprès de l'Université d'économie avec la collaboration avec les universités françaises, surtout Université Jean Moulin, Lyon 3, l'IAE de Paris, Audencia Nantes et IAE Nice. Les profs de ces universités arrivent enseigner nos étudiants, mais le programme est franco-tchèque. La moitié est enseignée en français par ces profs, l'autre moitié est enseignée par les profs de l'Université d'économie.
C'était les faits événements et place tout de suite à notre rubrique habituelle.
Économie, commerce. Alexis Rosenzweig.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette rubrique économique préparée aujourd'hui par Nathalie Franck. Ivona Kreutzmanova, la fondatrice du Festival international de danse Tanets Praha, a quitté le ministère de la Culture pour reprendre son travail au service du festival. Celui-ci a connu une crise l'été dernier, quand la ville de Prague a supprimé une grande partie des financements promis. Comme l'année dernière, nous avons évoqué avec elle les principales tendances du renouvellement en gestation de la politique culturelle tchèque. Un point pour l'année à venir, à la veille de la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne. On l'écoute.
Je trouve très dommage que jusqu'à ce moment, la République tchèque, en préparant la présidence de la République tchèque au Conseil de l'Union européenne, n'a pas mentionné la culture. Parce que c'est la culture qui nous fait visible partout au monde. Et si on n'a pas le mot de la culture même mentionné dans le document des priorités de la présidence tchèque, j'en suis très triste.
Le ton est donné par Ivona Kreutzmanova, qui déplore le manque de considération du gouvernement tchèque pour la politique culturelle. Une étude a été publiée par l'Institut des Arts, Institut Umění, comparant la politique culturelle des pays de l'Union européenne. Il en ressort que si les principes fondateurs de la politique culturelle tchèque sont comparables à ceux des autres pays de l'Union, ses applications pratiques suivent moins, et qu'en particulier le principal frein au développement de la politique culturelle tchèque est le budget de la culture, qui est proportionnellement toujours très inférieur au standard européen, 1%. Écoutons sur ce sujet Ivona Kreutzmanova au micro de Nathalie Franck.
Et au niveau étatique, est-ce qu'on commence à approcher les 1% pour la culture dont vous parliez l'année dernière, ou est-ce que vous pensez que ça arrivera bientôt?
Là, vraiment, je trouve la situation énormément difficile. Le budget d'État qui était proposé au Parlement maintenant est très très bas concernant la culture, car je ne travaille plus au ministère, je ne sais pas comment la bataille continue maintenant, mais le ministre a promis qu'il va vraiment faire maximum pour avoir 1% pour la culture. La nouvelle stratégie de notre État était déclarée, était en discussion publique maintenant sur Internet. Elle ne parle presque que de ça, parce que c'est tellement important. Mais en principe, on a refait un peu les points de base pour la politique culturelle d'État. Et ce matériel est fini. Et le ministre doit se battre énormément dans le gouvernement, parce que la situation du budget d'État est vraiment difficile. On va voir dans le Parlement, dans les semaine prochaine. C'est la question de 4 à 6 semaines maintenant.
Et le document dont parle Ivona Kreutzmanova, la proposition de la politique culturelle d'État pour les années 2009-2014, comporte une analyse de la politique culturelle de l'État tchèque résumant la situation actuelle. Ainsi, les forces évoquées sont l'infrastructure culturelle existante, les systèmes existants de soutien à la culture, la coopération entre l'État et de nombreuses institutions, organismes, associations dans le domaine de la culture, et le système d'éducation aux arts, particulièrement développé dans le pays, notamment par le biais des écoles primaires d'art, système d'enseignement public qui permet aux enfants d'école primaire de se spécialiser après l'école dans un domaine artistique de façon approfondie. Les faiblesses de la politique culturelle tchèque sont avant tout le manque de financement et l'archaïsme du fonctionnement de certaines institutions dû à un manque de qualification des managers de la culture. L'absence de coordination des activités culturelles dans le pays est également évoquée et une législation inexistante. Le document de l'Institut des Arts rappelle en effet qu'en République tchèque, il n'existe pas de loi concernant la culture, alors qu'elle existe dans 10 pays et que les avantages fiscaux pour financer la culture ne font pas l'objet d'une loi particulière, ce qui est pourtant le cas dans 10 pays d'Europe également. Celui qui veut financer la culture peut bénéficier d'avantages fiscaux généraux liés aux dons, mais ceux-ci ne sont pas formulés ni prévus spécialement pour la culture. Ils sont donc moins avantageux que les effets prévus par la loi française sur le mécénat, par exemple. Enfin, écoutons Ivona Kreutzmanova avec la question des financements croisés de la culture, le croisement des financements entre l'État, les régions et les villes.
Et vous aviez parlé l'année dernière des financements croisés. Est-ce que dans le nouveau document, il y a un pas qui a été fait dans ce sens-là ?
Oui, on a bien respecté ce système qui est tellement bien défini dans d'autres pays de l'Union européenne. C'est proposé, on parle de beaucoup plus de coopération parmi les villes, les régions et l'État. Il faut bien savoir que l'autonomie des régions et des villes est énorme chez nous. Alors, la coopération devrait être sur la base de volontés réelles, des relations beaucoup plus profondes et développées parmi tous ces organismes. Mais j'espère que ça va quand même, que ce n'est pas seulement la déclaration, mais qu'on va continuer vraiment à coopérer beaucoup plus proche.
L'analyse du ministère de la Culture évoque comme principale menace pour la politique culturelle le manque de financement et de ressources, la mauvaise gestion du patrimoine et un manque d'intérêt de la population pour la culture. Mais terminons plutôt cette émission sur les opportunités à saisir en République tchèque en matière de politique culturelle, les ressources humaines et les traditions, la situation géographique du pays, l'infrastructure existante dans les villes et les régions et la richesse connue de tous du patrimoine culturel tchèque.
C'est la fin de cette émission. Merci de votre attention, merci de votre fidélité à Radio Prague. Et avant de nous quitter, un rappel important, n'oubliez pas que ce dimanche, nous passons à l'heure d'hiver. Les nouveaux horaires et fréquences de Radio Prague sont les suivants.
Il y a pas mal de changements, alors notez-les bien. Les voici, les heures en temps universel coordonné, les fréquences en mégahertz. 7h-7h27, 5930, 7345 kHz pour l'Europe. 8h30-8h57, 9860, 11600 kHz pour l'Europe. 14h30-14h57, 11600, 13580 pour l'Europe et l'Afrique du Nord. 17h30-17h57, 5930, 15710 pour l'Europe et l'Afrique centrale. 19h30-19h57, 6135, 9430 kHz pour l'Europe et l'Afrique du Nord-Ouest. 23h-23h27 pour l'Amérique du Nord.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 9955 kHz, at 2130 hours on 11600 kHz, at 2230 hours on 7345 or 9415 kHz, at 0000 hours on 7345 or 9440 kHz, at 0100 hours on 6200 or 7345 kHz, at 0300 hours on 7345 or 9870 kHz.